Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 11 mars, on se prépare à évacuer. Le taux d'occupation des lits en réanimation en région parisienne grimpe à 92%. Olivier Véran, ce soir à 18h, devrait annoncer des transferts de malades. Elle s'appelle Spring et elle annonce le printemps sur le marché automobile. Dacia présente sa voiture 100% électrique à 12 400 euros bonus déduit. Quel avenir pour le nucléaire dans la production d'électricité? La catastrophe de Fukushima, il y a 10 ans tout juste, a changé la donne. Dans RTL Midi aussi, nous reviendrons sur ces deux adolescents mis en examen pour l'assassinat d'Alisha, 14 ans. Ils ont passé leur première nuit en prison. Cette information RTL, le mari de Delphine Jubilard va être convoqué par le juge à Toulouse. Sa femme a disparu depuis 3 mois. D'après Actu Toulouse, ce sera mi-avril en tant que partie civile. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
En mode bourrasque dans le nord.
Oui, avec des rafales entre 70 et 90 km/h dans les terres, jusqu'à 100 voire 110 sur les côtes de la Manche. D'ailleurs, le nord et le Pas-de-Calais sont toujours en vigilance orange, vent violent. Alors sur toute cette partie nord-nord-ouest, on a ce qu'on appelle un ciel de traîne entre nuages éclaircis averses, voire du grésil et un coup de tonnerre sur le Pas-de-Calais. Du sud-ouest au nord-est, de la pluie en continu. Et plus au sud, un ciel bien gris. Là où ça reste un peu lumineux, c'est sur le Roussillon et la Côte d'Azur. Tout ça sous des températures en hausse de 9 à 20 degrés.
La question du jour sur RTL.fr. Avez-vous peur du nucléaire? Eh bien, c'est non. Non à 74%, il y a 22% de oui. On attend vos arguments au 3210. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle. Nous parlerons évidemment d'Alisha une nouvelle fois entre 13h et 14h30. Nous évoquerons également ces 80 employés de l'hôpital d'Adassa, médecins, infirmières et administratifs qui ont été placés en congé sans solde parce qu'ils se refusent de se faire vacciner. Et c'est en Israël. Nous poserons une question. Faut-il commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte? Ce sera le 5 mai de cette année. Et puis un autre empereur, c'était le 11 mars 1978, un des empereurs de la chanson française. Si vous souhaitez lui rendre hommage, Claude François, 43 ans. Aujourd'hui, la transition était osée, c'est
ah
ce que
oui,
vous voulez
c'est
dire.
Un grand écart extraordinaire.
À tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer cette question, comment lutter contre les fraudes aux prestations sociales? C'est un serpent de mer qui est d'ailleurs assez difficile à chiffrer. Ça va de quelques dizaines de millions d'euros à plusieurs milliards. La Cour des comptes l'estime à 1 milliard d'euros. Une proposition de loi est étudiée aujourd'hui au Sénat pour chasser les fraudeurs, mais pas ceux auxquels on pense, pas le chômeur ou celui qui touche le RSA, non, plutôt des fraudeurs très organisés, Anaïs Bouissou.
Oui, la dizaine de propositions étudiées aujourd'hui doit permettre de mieux vérifier les fraudes, mieux se parler entre administrations et forcément aussi mieux contrôler des fraudeurs donc professionnels. Nathalie Goulet est la sénatrice à l'origine de la proposition de loi.
Le fraudeur que je vise, d'abord c'est pas une erreur, c'est une vraie fraude et c'est pas le RSA qui est en cause. Très généralement, les gens qu'ils perçoivent en ont vraiment besoin et quand il y a des fraudes, c'est une fraude à petite échelle. Ce que nous cherchons à éradiquer, c'est la fraude documentaire, c'est-à-dire des gens qui rentrent dans nos systèmes en ayant usurpé des identités, des gens qui se déclarent en couple alors qu'ils sont célibataires ou l'inverse. C'est pas une erreur, c'est une intention de frauder.
Parmi les mesures, les sénateurs proposent de vérifier que les allocations seront bien versées sur des comptes en France ou dans l'Union européenne, ou encore de donner plus de marge de manœuvre aux agents de la sécurité sociale. Les agents pourraient vérifier les photos, les commentaires mis en ligne sur les sites internet, les réseaux sociaux, dans le cadre d'une expérimentation.
Et le Covid a accentué ce phénomène?
Oui, la fraude sociale s'est développée avec le principe des entreprises éphémères, ouvertes et fermées en coup de vent. Toujours par des fraudeurs professionnels, vous imaginez un siège social, des emplois employé fictif, vous touchez des aides d'urgence, le chômage partiel par exemple, et vous disparaissez aussi sec. Ces fausses entreprises-là devraient être aussi mieux contrôlées si le texte est adopté.
Anaïs Bouissou, le Covid justement, il y a un an pile, le mot pandémie était prononcé pour la première fois par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Aujourd'hui, entre confinement, couvre-feu et autres restrictions, il faut tenir. En Seine-Saint-Denis, le taux d'occupation des lits en réanimation atteint 134%. C'est assez intenable. Alexandre Avenel est médecin réanimateur à l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois et il craint une saturation totale de toute la région.
Pour l'instant, l'Île-de-France bénéficie de la capacité énorme de Paris et qui a fait qu'on pouvait transférer là-bas. Ça, on sait que sur Paris, là, actuellement, c'est quasiment bloqué. Paris, l'assistance publique autour de Paris, commence à boucher. C'est-à-dire qu'on commence à manquer de lits. C'est plus aussi simple qu'il y a 2 semaines. Donc ça va être inévitable qu'à un moment donné, tous les lits de réanimation vont être saturés. Et moi, j'aimerais retrouver, ou le Seine-Saint-Denis et d'autres départements, à ne plus savoir où les transférer, ces patients-là. Il y a des réanimations en province notamment qui sont à zéro Covid. Et là, en deux semaines, j'estime qu'on avait le temps de transférer des patients pour faire de la place en Île-de-France. Et ça n'a pas été fait.
Alors, dans son point presse tout à l'heure à 18h, Olivier Véran, le ministre de la Santé, devrait évoquer justement les évacuations sanitaires qui sont désormais incontournables en Île-de-France, à Gatlandais.
Oui, on vient de l'entendre. Jusque-là, les réanimations tenaient grâce à Paris et à ses capacités énormes par rapport au reste du pays. Sauf que les réas parisiennes sont désormais saturées à 80%. Les transferts hors Île-de-France vont donc reprendre par train, par hélicoptère, vers d'autres régions situées à l'ouest, comme la Bretagne ou les Pays de la Loire. On rappelle que ce ne seront pas les premiers transferts hors région. Depuis février, les régions PACA ou Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, ont elles aussi déjà dû évacuer des patients vers des zones moins touchées. Il faut d'ailleurs s'attendre à ce que l'on transfère plus que pendant cette première vague dans les semaines à venir, parce qu'il y a un an, l'Île-de-France avait reçu beaucoup de renforts de soignants venus d'autres régions. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Transférer et déprogrammer va donc faire gagner du temps, assure Martin Hirsch ce matin dans l'Express. Mais selon le directeur général de l'APHP, deux trains de 40 patients chacun ne font gagner que 3 à 5 jours aux hôpitaux parisiens. En aucun cas, cela ne permettra d'inverser la tendance.
Merci à Gatlandais. On entend bien que la pression est terrible. Un nouveau vaccin devrait être autorisé aujourd'hui par l'Union européenne, le sérum américain de Johnson & Johnson. Une seule dose, il se conserve facilement dans un frigo classique. Il est efficace à 85% contre les formes graves de la maladie, mais 1 million de doses seulement seront livrées en avril dans notre pays. Le Danemark suspend, lui, par précaution, le vaccin AstraZeneca après des problèmes de coagulation chez des patients. Sachez aussi que l'Allemagne s'alarme d'une troisième vague à cause de la multiplication des variants. Le nombre de nouveaux cas en une journée est au plus haut depuis fin janvier. Les deux meurtriers présumés d'Alisha ont passé une première nuit en prison. Ils ont été mis en examen pour assassinat. Le juge a retenu la préméditation car l'adolescente de 14 ans a été prise dans un piège avant d'être battue et jetée dans la Seine à Argenteuil. Ils n'ont pas fait part d'un remords immédiat, expliquait hier le procureur de Pontoise. Pour Maître Berton, qui défend le jeune homme, l'adolescent a pris conscience de son acte.
J'ai rencontré un garçon complètement effondré, en larmes. Il le dit, jamais j'aurais dû faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je le regrette, si je pouvais revenir en arrière. C'est trop tard, malheureusement. Il pensait qu'elle l'a jeté à l'eau et qu'elle allait nager et puis revenir et peut-être même oublier ce qui s'était passé. Moi, je défends un gamin qui mesure 1m60, qui pèse 50 kilos, qui n'a jamais fait parler de lui, qui n'a jamais eu le moindre acte de violence, qui est complètement casanier. Voilà, c'est complètement incompréhensible. Donc il dort en prison pour peut-être un long moment.
Maître Berton avec Valentin Boisset. Alors, les deux adolescents, effectivement, sont en prison. Quelles sont leurs conditions de détention, Thomas Proutou ?
Eh bien, chacun d'eux a été conduit cette nuit dans le quartier mineur d'une maison d'arrêt d'Île-de-France. Un établissement pour hommes, pour le garçon, un établissement pour femmes, pour la jeune fille. Un quartier mineur, c'est une aile ou parfois un simple couloir dédié dans une prison pour adultes. Mais les règles sont un peu différentes. D'abord, l'encellulement individuel est la règle, ce qui est le cas partout en France, sauf à Nanterre, où quelques matelas sont posés au sol. Et puis l'accès à l'enseignement est garanti, en théorie 12 heures par semaine au minimum. Mais en pratique, selon l'Observatoire international des prisons, c'est loin d'être toujours le cas. Et il faut parfois attendre plusieurs semaines pour obtenir un programme de cours. À noter, les cours en présentiel pour les mineurs ont été maintenus malgré l'épidémie. Pour le reste, les cellules sont les mêmes que pour les majeurs. Un lit, une table, une télévision et une petite fenêtre où les jeunes détenus passent le plus clair de leur temps.
Les précisions de Thomas Proutou. Deux éducateurs ont été agressés hier par 5 jeunes dans un centre éducatif renforcé de la Valangière dans la Loire. L'un s'est pris un coup de barre de fer, l'autre était en état de choc. D'après les premiers éléments de l'enquête, ils auraient refusé une pause cigarette à des jeunes qui avaient fugué pendant quelques heures.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
Au Japon, des sirènes ont retenti sur la côte près de Fukushima. Entre prières et minutes de silence, le pays a commémoré avec émotion les 10 ans de la triple catastrophe, séisme, tsunami et accident nucléaire. On se souvient de cette centrale envahie par la mer où le cœur de 3 des 6 réacteurs sont entrés en fusion. Sophie Jousselin, dans quel état est la centrale de Fukushima aujourd'hui?
Alors, la situation dans ces 3 réacteurs est stabilisée, mais les 900 tonnes de combustible fondu sont toujours là, arrosées en permanence. Leur évacuation par des robots pourrait commencer au mieux l'année prochaine. Mais ce qui pose vraiment problème sur le site, c'est la gestion des eaux contaminées, celles qui servent à refroidir le combustible, dont d'ailleurs une partie est réutilisée, mais aussi celles qui s'infiltrent dans les bâtiments, ce sont des eaux de pluie, des eaux souterraines, et chaque jour, c'est l'équivalent de 1000 baignoires qu'il faut filtrer et stocker. On peut les débarrasser de plusieurs éléments radioactifs, mais il reste toujours du tritium, on ne sait pas l'éliminer. TEPCO, l'opérateur de la centrale, voudrait rejeter ces mètres cubes d'eau dans l'océan. Pour l'instant, il n'a pas le droit de le faire, mais c'est envisagé. De toute façon, les capacités de stockage seront bientôt atteintes. Les immenses cuves de 1000 mètres cubes seront bientôt pleines. Quant au démantèlement total de la centrale, il prendra au minimum entre 30 et 40 ans.
Et les personnes déplacées sont-elles revenues ?
Très peu, 20% seulement des 95 000 personnes évacuées sont rentrées chez elles, surtout des personnes âgées. Mais dans ces zones décontaminées, il n'y a plus beaucoup de commerces ni de services. Il reste aujourd'hui un peu plus de 300 km² inhabitables sur les 1150 classés en zone interdite après la catastrophe.
Sophie Jousselin, alors cet accident à Fukushima a été le pire depuis Tchernobyl. Le Japon a abandonné cette énergie. Les pays d'Europe ont levé le pied. Pour aller plus loin, nous sommes avec Yves Marignac qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un expert indépendant du nucléaire, porte-parole de l'association Negawatt. Aujourd'hui, en France, le nucléaire représente encore à peu près 70% de notre production d'électricité. François Hollande s'était fixé comme objectif de le réduire à 50% en 2025. C'est définitivement hors d'atteinte.
Alors, c'est hors d'atteinte, effectivement, faute d'avoir mis en œuvre avec un rythme suffisant des politiques alternatives de maîtrise de la consommation d'électricité et de développement des énergies renouvelables. Et effectivement, moins de 10 ans après, l'horizon d'atteinte de cet objectif de 50% a déjà été reporté à 2035. C'est malgré tout un fait que notre parc nucléaire est vieillissant.
Alors justement,
et que nous n'avons pas les moyens de reconstruire des réacteurs nucléaires à un rythme suffisant pour le remplacer. On connaît les difficultés de l'EPR de Flamanville. Mmh. Et donc les difficultés restent complètement devant nous. Pour le moment, on est plutôt dans une politique de l'autruche à repousser ces échéances.
Et nos centrales nucléaires vieillissent, vous en parliez. Est-ce qu'elles sont toujours aussi sûres ?
Alors c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'il faut faire la balance entre deux facteurs. Le premier, c'est le renforcement des installations. On s'en souvient, après Fukushima, il y a eu ce qu'on appelait les stress tests, oui, les réévaluations de sûreté qui ont conduit quand même à des prescriptions assez ambitieuses sur des renforcements à apporter aux installations, puisque le retour d'expérience de Fukushima, c'est effectivement qu'un accident majeur est possible, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui le dit à tout moment sur nos installations. Donc d'un côté, on a prévu ces renforcements. Le problème est qu'on n'en a fait qu'une partie aujourd'hui et qu'ils ne seront terminés qu'en 2035, voire au-delà. Et dans le même temps, évidemment, les réacteurs ont 10 ans de plus. Et surtout, peut-être le plus inquiétant, c'est des signaux d'une difficulté d'EDF à maintenir ces réacteurs en bon état de conformité et à disposer des capacités industrielles pour faire tous les travaux nécessaires.
Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, les centrales sont plus sûres ou pas qu'il y a 10 ans dans notre pays ?
Elles ont été renforcées, mais pas suffisamment, par rapport à ces effets de vieillissement et de dégradation. Donc la tendance est plutôt, de mon point de vue, à une aggravation du niveau de sûreté qui reste néanmoins important. Hein. On a une autorité de sûreté qui contrôle, etc. Je ne suis pas en train de vous dire qu'un accident va fatalement arriver dès demain. Mais il y a une vigilance importante à avoir. Encore une fois, les signaux aujourd'hui sont plutôt dans le mauvais sens par rapport à ces enjeux.
Et le problème, c'est qu'on ne peut pas se passer du nucléaire hein, pour l'instant, puisque c'est l'électricité la moins chère. Je crois que c'est nous qui payons le moins en Europe.
Alors, c'est de moins en moins vrai. En tout cas, qu'on ne puisse pas se passer du nucléaire à court terme, compte tenu de sa part dans notre production d'électricité, c'est évident. Qu'on ne puisse pas réfléchir à s'en passer à long terme, ça devient de moins en moins évident. Au contraire, hein, il y a aujourd'hui une progression des énergies renouvelables qui, aujourd'hui, par rapport à des nouveaux réacteurs, sont incontestablement plus compétitives. Un système électrique 100% renouvelable à long terme, avec des capacités de stockage, etc., apparaît de plus en plus comme moins coûteux, encore une fois à long terme, que le renouvellement du parc nucléaire. Par contre, effectivement, nos réacteurs amortis sont aujourd'hui moins chers à faire tourner que des nouveaux moyens de production, quels qu'ils soient. Mmh. Sauf que le renforcement de la sûreté dont on parlait à l'instant apporte avec lui un renchérissement du coût de fonctionnement de ces réacteurs. Il y a devant nous donc une équation de plus en plus difficile à tenir entre ces enjeux de sûreté, les enjeux financiers pour EDF et les enjeux pour les consommateurs que nous sommes en termes d'augmentation de nos factures d'électricité.
Merci beaucoup. Merci à Yves Marignac d'avoir été l'invité de ce journal. Merci. Et puisqu'on parlait d'électricité, justement, voilà un véhicule qui va révolutionner le marché. Dacia passe au vert avec la Spring, une petite citadine qui sera vendue 12 403 euros bonus déduit. Elle sera commercialisée au printemps, justement, et livrée à la rentrée. Le directeur général de Dacia, Denis Levent, nous la présente.
Spring, c'est la voiture d'entrée vers l'électrique. 4 places, 300 litres de coffre, 300 km d'autonomie. Une vraie voiture, mais surtout une vraie Dacia, 89 euros par mois. Qui se recharge très facilement à la maison, sur le courant normal, qui se recharge plus rapidement sur les bornes, donc qui peut s'utiliser vraiment dans toutes les conditions de la vie de tous les jours.
Vous avez fait des impasses sur la voiture pour avoir ce prix-là. Est-ce qu'il y a des impasses?
C'est une vraie Dacia. La seule impasse, c'est le superflu. Dans la voiture, il y a tout. Il y a la navigation, il y a l'air conditionné, il y a 300 litres de coffre, il y a 300 km d'autonomie, tous les équipements de sécurité. Cette voiture, c'est la voiture idéale pour aller au travail, pour aller au supermarché, pour aller à l'école. C'est l'usage de plus de 2 millions de Français tous les jours, 30 km par jour. On répond exactement à cette demande.
Denis Levent, le directeur général de Dacia, au micro RTL de Christophe Bourroux. Dans un instant, le mari de Delphine Jubilard, disparu depuis 3 mois, va être convoqué chez le juge.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Ça fait près de 3 mois que Delphine Jubilard a disparu. Elle a quitté son domicile en pleine nuit à Cagnac-les-Mines et le mystère ne se dissipe pas. D'après les informations de notre bureau RTL à Toulouse, son mari Cédric va être convoqué par le juge d'instruction. Et ce sera à la mi-avril en tant que partie civile d'après Actu Toulouse. Hier, avant la confirmation de cette audition, déjà son avocat, Maître Alary, souhaitait cette audition.
Bien sûr que c'est un événement qui est important, parce que qui est même fondamental, puisque c'est également le moment où nous allons avoir accès à une partie de la procédure. Et c'est vrai que peut-être justement ces accusateurs anonymes, nous pourrons enfin nous en défendre, parce que essayer de vous battre contre un fantôme, ça va être un petit peu compliqué. Donc, on ne peut pas répondre à des accusations pareilles. Donc il est vrai que c'est quelque chose que l'on souhaite depuis longtemps. C'est un événement important. C'est peut-être encore une fois le déclenchement ou le début d'une nouvelle phase.
Maître Alary au micro RTL de Patrick Hisson. Le président de l'UDI, le centriste Jean-Christophe Lagarde, est en garde à vue pour détention d'armes. Il est entendu depuis 5 heures ce matin par les enquêteurs de la PJ de Seine-Saint-Denis, un département dont il est député. Emmanuel Macron en ce moment à Dammartin-en-Goële aux côtés du patron de l'imprimerie Michel Catalano, qui avait été pris en otage par les frères Kouachi en 2015 à l'occasion de la journée d'hommage aux victimes du terrorisme. Ce dernier montrera au président sa voiture criblée de balles qu'il a gardée en l'état. Le chef de l'État a présidé ce matin une cérémonie aux Invalides avec entre autres François Hollande et Nicolas Sarkozy.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons à Angers dans les locaux du Secours Populaire. L'association humanitaire vient d'inaugurer un espace bien-être pour donner un peu de répit à ceux et surtout celles qui viennent demander de l'aide. Reportage Christian Panvert.
L'antenne du Secours Populaire d'Angers accueille chaque jour une soixantaine de familles. Elles viennent dans un premier temps obtenir de l'aide alimentaire, mais pour Annie Franger, la secrétaire départementale, il faut aller plus loin.
Certaines femmes, quand on les reçoit, nous disent que c'est leur seule sortie. C'est aussi un moyen de créer un lien social.
Et pour ça, un espace a été aménagé afin de réaliser 2 fois par semaine des ateliers bien-être animés par des femmes. Aujourd'hui, séance de tchatsu avec Peggy, une des bénévoles de l'association Spa de la Rue.
C'est basé sur la médecine traditionnelle chinoise. Ça ressemble un petit peu à l'acupuncture. Les gens connaissent souvent plus l'acupuncture. Sauf que là, les personnes sont habillées et on effectue des pressions avec les doigts. C'est des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude qu'on pratique sur leur corps.
Une première pour Zora qui traverse une période difficile.
C'était vraiment trop bien. Je me sens relaxée, soulagée de mes maux de ventre. C'était un moment très fort.
Salomé, en service civique, chargée de l'organisation, voit les effets immédiatement.
Pour une personne en précarité, se sentir beau et se sentir bien dans son corps aussi, c'est quelque chose de très important pour pouvoir avancer, aussi important que l'alimentaire finalement.
Les femmes repartent d'ici regonflées à bloc, plus fortes encore et avec le sourire derrière le masque.
plus forte et aussi plus zen. Merci Christian Panvert. À l'instant, la réponse d'un prince à un autre. William assure ce matin que la famille royale britannique n'est pas raciste. Vous vous souvenez que son frère Harry a rapporté des conversations au sein de la famille sur la couleur de peau d'Archie, le fils qu'il a eu avec Meghan. Nous ne sommes pas du tout une famille raciste, a déclaré donc ce matin le prince William lors d'une visite d'une école dans l'est de Londres. Et on retrouve Pascal Pro avec qui vous allez dialoguer au 3210. Pascal.
Et pour rebondir sur ce que vous disiez, ce qui est amusant dans nos sociétés, c'est qu'un buzz chasse l'autre et que ce qu'a dit Meghan est déjà oublié et qu'on n'en reparlera sans doute pas. Ça nous aura intéressé l'espace de 24 heures. Il y a des choses plus graves, évidemment, et la mort d'Alisha en fait partie. Vous pourrez réagir une nouvelle fois. Ça fait 48 heures qu'on entend vos témoignages. On pourra évoquer également ces 80 employés de l'hôpital Hadassa, médecins, infirmières et administratifs en Israël, qui ont refusé de se faire vacciner et qui sont mis à pied. Faut-il commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte ? Ça, c'est un sujet qui va nous déchirer, puisqu'aujourd'hui, nous sommes déchirés à peu près sur tous les sujets en France. Et puis, le 11 mars 78, je ne sais pas si... Je crois vous avoir posé déjà la question l'an passé, pour tout vous dire. Oui. Et vous m'aviez dit que vous n'étiez pas une fan à l'époque de Claude François. Donc il y a peu de chances que cette année...
Que je m'en souvienne
non. Il y a peu de chances que cette année, 78, vous en soyez devenu. Mais en revanche, les auditeurs peut-être pourront... ça nous donnera un peu de légèreté, oui, disons-le, d'écouter Claude François.
Et puis vous
François.
Allez chanter comme d'habitude. Non, il y aura un bon karaoké.
Alors, quand vous dites vous allez chanter, virgule, comme d'habitude, c'est ou vrai. Vous allez changer... Tes deux points, ouvrez les guillemets,
les
comme
deux,
d'habitude.
Mon général. Peggy Broche, la météo, c'est bien agité tout ça.
Et oui, c'est vrai, Christelle, qu'il y a encore de fortes rafales de vent sur toute la moitié nord, entre 70 et 90 km/h, jusqu'à 100 km/h sur les bords de Manche. Le nord et le Pas-de-Calais sont encore en vigilance orange pour vent violent. La vigilance devrait être levée d'ici 14h. Ce matin, on a eu des rafales à 125 km/h hein, sur Boulogne-sur-Mer, par exemple. Côté ciel, la perturbation avec des pluies en continu se retrouve actuellement entre le Bordelais et le Nord-Est. Ça reste chargé plus au sud avec quelques gouttes possibles. Alors, sauf entre les Pyrénées et la Côte d'Azur, là, le temps est sec, mais bien voilé. Juste lumineux sur le littoral de la Côte d'Azur et des Pyrénées-Orientales. Et puis à l'avant, donc sur le Nord-Ouest, un ciel de traîne entre nuages, éclaircies, quelques averses, voire des giboulées ponctuellement orageuses vers le Pas-de-Calais. Les températures, elles sont en légère hausse cet après-midi. 9 au Havre, 10 à Brest, 12 à Rennes, 13 à Nancy, 14 à Bordeaux et Paris, 17 à Marseille, 18 à Nîmes et jusqu'à 20 degrés à Perpignan.
Bon, et demain, encore ce petit cocktail pluie-vent entre deux éclaircies ?
Exactement, tout le monde ou presque aura droit à un moment avec une averse, des averses plus ou moins fortes, plus ou moins fréquentes. C'est un défilé d'averses qui nous attend demain, sauf sur le sud-est où là le temps restera sec et lumineux, avec toujours beaucoup de vent sur toute la moitié nord et des températures qui resteront de saison.
Merci Peggy. Merci.
Oui, Pascal. N'est-ce pas ce qu'on appelait jadis les giboulées ?
Exactement, on est en plein mois de mars.
Vous avez remarqué ?
Les giboulées de mars.
Les giboulées sont toujours au rendez-vous. Allez, à tout de suite avec Pascal et avec vous bien sûr au 3210.
RTL. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Et nous allons évidemment évoquer la mort d'Alisha et... le procureur de la République hier qui a donné, si j'ose dire, des détails. Bonjour Véronique.
Oui, bonjour Pascal.
Et vous avez été choquée par le récit de cette audition.
Ah ben oui, moi je suis sidérée et très inquiète pour notre avenir.
On va en parler. Les informations, le rappel des titres avec Christelle.
Il faut tenir face à la nouvelle poussée de l'épidémie. Le taux d'occupation des lits en réanimation en région parisienne est à 92%. Olivier Véran, ce soir à 18h, devrait annoncer des transferts de malades. Après les restaurateurs ou encore le monde de la culture, celui du sport s'impatiente. Deux parlementaires pressent Jean Castex d'autoriser à titre expérimental une série d'événements sportifs en plein air avec du public et un nouveau protocole sanitaire. La première réaction du sélectionneur du 15 de France, Fabien Galthié, après les 16 cas de Covid au sein de l'équipe qui était censée être une bulle sanitaire, il se défend justement sur le protocole.
Comme je l'ai déjà dit et je le répéterai, tous mes actes, toutes nos actions ont été en respect total avec le protocole sanitaire. Nous, ce qui est important, c'est d'abord le rapport qui a synthétisé, qui a conclu l'origine de cet épisode-là, l'épisode Covid. Ensuite, ça fait partie, je crois, de l'exposition que l'on doit assumer en tant qu'équipe de France de rugby, très populaire, très exposée, très en lumière. Et donc, il faut accepter ce que l'on peut entendre, ce qui se dit, sans pour autant se détourner de notre chemin.
Fabien Galthié au micro RTL de Jean-Michel Rascol. Quant à Angleterre-France samedi, Mathieu Jalibert conserve sa place de titulaire à l'ouverture. Romain Ntamack, de retour de blessure, sera remplaçant.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur...